kiss and held him tight. But instead of saying things back, Snake gave her a vicious spite. Oh, take me in, oh, tender woman. Why? And you knew your bite is poisonous, and now I'm gonna die. Oh, shut up, silly woman, sissy and ripped with a pin. And you knew, don't dwell on our war, the snake of before you.
Stop the war. What are we fighting for? Stop the war. There's a war going on outside. There's a war. There's a war going on outside. There's a war. We no in a them war. Rasta no in a them war. We say to stop the war. What are you fighting for? Say we no in a them war. Them tribal war.
No, 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 no.
Say we no in a them war. Them racial war. Say we no in a them war. Them religious war.
No, 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 no.
No, we no in a them war. Them political war. When I said pagan and Pope of Rome tryna hide the children from the Lord, we should know the truth and know that pagan Rome, all of them are fraud. They come with racism and communism. They come with Nazism and all them hate. But we know in a them war,
no, no, no,
them tribal war. We know in a them war,
no, no,
them racial war. No, we know in a them war, them religious war.
No, 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 no.
We know in a them war, them political war. There's a war going on outside. There's a war. There's a war going on outside. There's a war. They say it's a holy war, but I don't see no holiness in war. So stop the war, stop the war, stop the war. What are we fighting for? There's a war going on outside. There's a war. But Rasta say I know. Say we know in a.
Bonjour, nous sommes toujours sur la clé des ondes 90.10. Nous sommes dans l'émission Les Vieux Fourneaux, émission de critique sur l'actualité, entre autres. Et je vais donner la parole à Thierry pour sa revue de presse légendaire.
Légendaire, n'exagérons pas. Enfin bref. Bon, chers auditeurs, chères auditrices, alors l'actualité est chargée dans tous les sens du terme. Bon, je ne vous dirai pas des nouvelles de nos disparus, ça n'arrange pas. Par contre, il y a quelque chose, une photo. Vous savez que dernièrement, il y a eu les commémorations de la libération de Paris, de la descente des Champs-Élysées. Et le mensuel Géo nous apprend pas mal de choses tirées des archives de Financial Times, un journal anglais. Alors, vous avez toutes et tous, chères auditrices, chers auditeurs, en tête les grandes photos des Champs-Élysées avec au centre le général de Gaulle et son képi. Puis, les gens curieux, on va dire ça comme ça, se demandent, oui, mais il n'y a que des Français, il n'y a que des Blancs. Et oui. Et on a découvert une photo où il y a peut-être un tireur sénégalais, ou on va dire ça comme ça, qui est en train d'être débarqué de la manifestation sur les Champs-Élysées. Et oui, car paraît-il, on le sait maintenant, mais ça se disait aussi, et c'est-à-dire que les autorités américaines avaient stipulé au général de Gaulle et aux autres pas de gens de couleur, que des blancs. Et on sait ça maintenant, enfin de manière sûre, voilà. Bon, alors quoi de nouveau en plus les Girondins, il paraît qu'il y a un livre maintenant. Un livre édité par Sud-Ouest, tiens, eh oui. Et ils auraient envoyé quelques mots, quelques extraits à Lopez, qui, paraît-il, n'aurait pas répondu. Ça met alors, voilà. Alors sinon, dans la une de tous les journaux, c'est ce qui se passe à Gaza. Et on pourra voir qu'on parle plus beaucoup de l'Ukraine, à part des voyages du président pour avoir des sous. Mais les sous. Alors sinon, dans notre microcosme bordelais, mais pas que, il paraît qu'il va y avoir encore des sous en moins pour la poste. Ah bon? Et alors donc, les bureaux de poste, ça va faire bientôt partie du passé. Tout se fera dans les tabac-presse. Ah bon? Ou alors dans les camions qui se promènent. Bon, alors sinon, il paraît que le loup redevient un problème pour la France. Ah, les loups. À part ça... qui dispute les unes des journaux, il y a aussi l'Autriche où l'extrême droite est arrivée en tête d'élection dernière. Et oui, alors comme ça, ça fait au moins un boulet en plus à Marine Le Pen qui, en ce moment, je ne sais plus à quelle heure, comparaît devant un tribunal pour... des postes attribués à autre chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais plus. Si, on va trouver ça. Procès des assistants à la une de Libération de ce matin. Procès des assistants fictifs du RN. Un danger bien réel pour Le Pen. Eh oui. Alors sinon, la guerre au Liban... La bascule, drôle de terme, en éliminant le chef du Hezbollah et la quasi-totalité de son état-major, Israël a porté un coup certain à l'axe de la résistance pilotée par l'Iran. Le conflit entre dans une nouvelle dimension. Diable. Alors l'humanité, ils y vont à fond, le Moyen-Orient au bord du précipice. Alors, à la même une, il y a l'extrême droite en tête aux législatives. Ah bon, ah bon. Alors sinon, on en est toujours au même point en Martinique, en Nouvelle-Calédonie. Encore un boulet pour le nouveau gouvernement. Voilà, voilà. Sinon, la une du monde, il y a quand même Nasrallah tué par une frappe israélienne. Alors, pour faire le pendant, Marine Le Pen face à la justice. Diable, diable, diable. Que faut-il encore faire? Bon, alors sinon, des petites choses du canard enchaîné. Ah ben oui. Que se passe-t-il? Que nous montre le canard enchaîné? À part... voilà, voilà, je cherche. Je vais trouver, ne vous inquiétez pas. Faut pas putcher. Oh, encore un putsch? Eh oui. Alors, il paraît que... le leader du parti du Rassemblement de la Nation Centrafrique, Noord Gregaza, a fini de purger une peine de 20 ans à la prison de Saint-Martin-en-Ré. Mais il est promis à un bel avenir, parce que selon son épouse, elle est convaincue qu'un jour il sera président de la Centrafrique. Et il s'en est déjà donné les moyens. Il paraît que mon mari, dit-elle, a 10 000 soldats sous ses ordres. Je cherche un pays d'accueil afin qu'il puisse préparer son coup d'État. Ah, je suis en contact avec Israël. Oh là là, je crois que, ma chère madame, en Israël, les partisans de la paix ou pas de la paix, ils n'ont pas... Ah, et comme dit méchamment... Le canard enchaîné, elle n'a pas pensé à passer une annonce sur le bon coup. Oh, le bon coin, le bon coin. Ah. Bon, ben, l'actualité, c'est quand même demain. Chers auditeurs, chères auditrices, une grève appelée par la CGT solidaire, la FSU et d'autres organisations. Voilà, ma chère Sandra. À vous.
Ça y est, c'est bon pour aujourd'hui. Eh bien, écoute, est-ce qu'on se passe une petite musique? J'étais en train de réfléchir. Pourquoi pas? Hein?
Allons-y.
Allons-y. Attends, je réfléchis.
Les macronistes sont dans la place. Hey Martinez, t'es foutu. Le MEDEF est dans la rue.
Sur les plateaux de BFM, comme un peu partout sur les ondes, les nouvelles en France sont les mêmes. Paraît que la révolte gronde.
Que toute la gauche bat le pavé, même le PS est dans la rue. Longtemps que c'était pas arrivé, Olivier Faure est tout perdu.
Mais à Matignon, à l'Élysée, on lâche rien, on reste debout. Hasta Marlène Schiappa, siempre, oui, on se battra jusqu'au bout.
Que les gauchos viennent nous chercher, gare à toi Philippe Martinez. On est courageusement cachés derrière les cordons de CRS.
On lâche rien, 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 on lâche rien.
C'est pas trois Gaulois réfractaires qui vont nous faire la leçon.
D'après les chiffres du ministère, en fait c'est plutôt 3 millions.
Mais même contre la France entière, c'est nous tout seuls qu'on a raison.
On lâchera rien, pas un copec, pas une année de cotisation.
D'abord si t'aimes pas notre loi, c'est que tu n'as pas bien compris. Heureusement on est les rois pour ce qui est de la pédagogie.
Les sondages donnaient en janvier 55% d'opposants. On retourne tous à la télé, ça passe à 80%.
On lâche rien, on lâche rien. On lâche rien, 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 on lâche rien.
Le
7 mars, on bloque le pays et on brûle des portraits de Macron. Merde, ça c'est un tract de les filles que j'ai pris sans faire attention.
Macroniste de tous les pays, unissons-nous contre ces despotes.
Bon, on est 14 et demi, mais on a Olivier Dussopt.
Tous solidaires avec nos frères, les PDG du CAC 40.
Solidarité avec Patrick Pouyanet. Solidarité avec Vincent Bolloré. On est là.
Merci de rester avec nous à l'écoute de RFI. Il est midi à Paris et 10h en temps universel. Le journal, c'est tout de suite avec vous, Florent Guignard. Florent, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour à toutes et à tous. À la une, une prise de parole du numéro 2 du Hezbollah, 3 jours après la mort du chef du mouvement chiite libanais Hassan Nasrallah, tué dans une frappe israélienne. Nous serons en direct de Beyrouth dans un instant. Alors que l'armée israélienne poursuit sa campagne de frappe, le chef du Hamas au Liban a été tué. Ces bombardements, ils provoquent la fuite des populations. 1 million de personnes déplacées au Liban. À la une encore, le procès des emplois fictifs du Rassemblement National. Il s'ouvre cet après-midi à Paris. Marine Le Pen sur le banc des accusés risque l'inéligibilité. Et puis, une retraite internationale annoncée ce matin. Antoine Griezmann ne jouera plus en équipe de France. Le Liban a entamé ce matin 3 jours de deuil national après la mort de Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, tué vendredi dans une frappe israélienne dans la banlieue sud de Beyrouth. Le numéro 2 du mouvement chiite libanais a pris la parole tout à l'heure. Un discours que vous avez suivi, Paul Khalife, vous êtes à Beyrouth. Qu'a donc dit Naïm Qassem ?
Le numéro 2 du Hezbollah, Florent, a accusé Israël de commettre des massacres de grande ampleur contre les civils et de frapper les régions libanaises une à une avec le soutien actif des États-Unis. Ce que nous avons enduré, en commençant par l'attaque des beepers et des talkie-walkies, l'assassinat des commandants puis du secrétaire général, les milliers de raids et les milliers de morts auraient fait vaciller les plus grandes armées du monde, mais nous sommes toujours là, a-t-il dit. À travers ces bombardements, l'armée israélienne poursuit 2 objectifs qu'elle n'atteindra pas, a assuré Naïm Qassem. Le premier, détruire les capacités humaines du Hezbollah. Le deuxième, creuser un fossé entre le parti et sa base populaire. Il a assuré que le système de commandement et de contrôle continue de fonctionner avec précision. Le Hezbollah a mis en œuvre des plans de contingence préparés par le secrétaire général et la bataille continue. Les structures du parti fonctionnent. Les commandants ont des adjoints qui les remplacent s'ils tombent au combat. Les lacunes ont été comblées sur le champ de bataille, a dit Naïm Qassem. Le numéro 2 a ajouté qu'un nouveau secrétaire général et de nouveaux commandants militaires seront désignés conformément à la procédure normale. Si Israël pense que la barbarie et le soutien occidental lui permettront d'atteindre ses objectifs, il se fait des illusions, a-t-il conclu.
Paul Khalife en direct de Beyrouth, le centre de la capitale libanaise, pris pour cible ce matin par Israël pour la première fois depuis le 7 octobre. 3 membres du Front de libération de la Palestine ont été tués. Des frappes israéliennes aussi ce matin dans le sud et l'est du Liban. Et dans le sud, c'est le chef du Hamas au Liban qui a été tué. Ces frappes israéliennes, tous azimuts, ont une conséquence très directe pour la population libanaise. La fuite, 1 million de Libanais ont dû quitter leur maison selon le Premier ministre libanais. Pour le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies, il y a aussi 100 000 personnes qui ont fui le Liban vers la Syrie. Matthew Saltmarsh est le porte-parole du HCR.
Ce sont des réfugiés syriens qui étaient au Liban et maintenant qui ont décidé de rentrer chez eux. Maintenant, il y a plus d'un million de réfugiés syriens au Liban. Et pour certains, ils ont pris la décision de retourner chez eux parce qu'ils ont l'idée que c'est plus sauf chez eux maintenant par rapport au Liban. Franchement, c'est difficile dans les deux pays. On peut dire que toujours la Syrie, c'est dangereux, c'est pas tout à fait stable. Mais il y a moins d'attentats directs maintenant dans ce pays par rapport au Liban.
Le porte-parole du HCR, le commissariat aux réfugiés des Nations Unies, joint à Genève par Heike Schmidt. Dernier chiffre, selon le gouvernement libanais, la campagne de frappes israéliennes enclenchée la semaine dernière a tué plus de 1 000 personnes. enfin signalé sur le plan diplomatique que les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne se réunissent en urgence cet après-midi. 192 morts au Népal et 31 personnes portées disparues, c'est le tout dernier bilan des inondations et des glissements de terrain dans le pays. Autre bilan après le passage de l'ouragan Helene aux États-Unis. 93 personnes ont été tuées. Également dans l'actualité, la Russie qui continue ses tirs de drones sur l'Ukraine, en particulier sur la capitale Kiev ces dernières heures. Plusieurs dizaines de drones et 3 missiles tirés. Et l'Ukraine annonce les avoir pour la plupart neutralisés. RFI, il est 12h05 à Paris. On va maintenant parler d'un procès particulièrement suivi qui s'ouvre cet après-midi à Paris. Le procès des emplois fictifs présumés du Front National, devenu depuis le Rassemblement National. Procès particulièrement suivi parce que parmi les 25 accusés, il y a Marine Le Pen, multiple candidate du RN à la présidentielle, qui pourrait, en cas de condamnation, être déclarée inéligible, outre une peine maximum de prison de 10 ans et 1 million d'amende. Alors, que reproche-t-on à la direction du Rassemblement National? La mise en place d'un système visant à faire embaucher des assistants parlementaires au Parlement de Strasbourg, aux frais de l'Union européenne, alors qu'il travaillait non pas pour les eurodéputés, mais pour le parti. Laura Martel.
L'accusation estime avoir mis au jour un véritable système de détournement des enveloppes de 21 000 euros mensuels allouées par le Parlement à chaque député pour rémunérer des assistants parlementaires alors que le FN était en difficulté financière. Marine Le Pen était la décisionnaire principale in fine de ce système, soutient le parquet. Parmi les éléments à charge, un mail de juin 2014 envoyé à la présidente du parti. Nous ne nous en sortirons que si nous faisons des économies importantes grâce au Parlement européen, l'alerte le trésorier. Des eurodéputés ont témoigné qu'au cours d'une réunion à la même période, Marine Le Pen aurait exigé qu'ils recrutent un seul assistant par eux-mêmes, le reste de leur enveloppe devant être mise à la disposition du mouvement. L'un des parlementaires écrit dans la foulée au trésorier « Ce que Marine nous demande équivaut qu'on signe pour des emplois fictifs ». De leur côté, le RN et ses membres réfutent tout détournement de fonds publics, d'autant plus que les assistants parlementaires ne sont pas des salariés du Parlement, mais ont aussi un rôle politique, insiste Alexandre Varro, désigné par le parti pour commenter ce dossier. Et il n'y a aucun système, sinon tous les eurodéputés du parti seraient poursuivis, pointe-t-il. Le préjudice est évalué à 3 millions d'euros.
Laura Martel, spécialiste police-justice à RFI, qui suivra donc ce procès qui s'ouvre précisément à 13h30, heure de Paris. Pour l'heure, il est presque 12h08 à Paris et on va parler de la dernière information de la matinée. C'est du foot avec une annonce fracassante. Éric Mamrut, Antoine Griezmann, Grisou, met un terme à sa carrière en équipe de France.
Oui, une décision totalement inattendue. C'est un sacré coup de Grisou, on pourrait dire, qui a explosé tout à l'heure dans la Maison Bleue via une vidéo publiée sur les réseaux sociaux dans laquelle Antoine Griezmann, en voix off, annonce sa retraite internationale avec une profonde émotion, dit-il, en précisant qu'après 10 années incroyables, il était temps pour lui de tourner une page et de laisser place à la nouvelle génération. L'histoire en bleu du milieu offensif a en effet débuté lors de la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Depuis, il est devenu un des cadres incontournables de cette équipe de France, notamment lors de l'Euro 2016, où Grisou a marqué 6 buts pour être élu meilleur joueur du tournoi. Puis il y eut la consécration 2 ans plus tard avec la couronne de champion du monde en Russie, une nouvelle finale à la Coupe du Monde au Qatar en 2022. Griezmann et Didier Deschamps semblaient alors indissociables, mais cet été, lors de l'Euro, l'histoire d'amour a connu un sévère accroc, le sélectionneur plaçant son vice-capitaine sur le banc à 2 reprises, notamment lors de la demi-finale perdue contre l'Espagne. Un déclassement mal vécu par le joueur, sans toutefois lui ôter l'envie de continuer à porter le maillot bleu, comme il l'avait déclaré le mois dernier. Depuis, Grisou a donc changé d'avis, l'un des chouchous du public français quitte donc aujourd'hui le navire tricolore, emmenant dans sa besace 137 sélections et 44 buts inscrit. Didier Deschamps, à l'instant, vient de lui rendre hommage en parlant de lui, à l'issue d'un long message, comme un monument du football français.
Éric Mamrut, Antoine Griezmann, donc, qui ne jouera pas dans les prochains rendez-vous de l'équipe de France. Hein, deux matchs de la Ligue des Nations, ce sera dans une dizaine de jours face à Israël et à la Belgique. Presque midi 10 à Paris, c'est la fin de ce journal et je laisse le micro à Emmanuel Bastide. Bonjour.
Merci et bonjour Florent Guignard. Merci à vous.
8 milliards de voisins, tout de suite.
Vous êtes bien sur la clé des ondes 90.10, la radio qui se mouille pour qu'il fasse beau. Programme éclectique.
Et rebonjour, nous sommes toujours sur l'émission Les Vieux Fourneaux et nous sommes nombreux et nombreuses ce matin dans le studio avec mes invités que je vais accueillir. Donc mon premier invité, il est à ma droite, c'est Guillaume.
Bonjour.
Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, Guillaume ?
Ouais, donc je suis Guillaume Irasque, j'appartiens au syndicat de la CGT Striker et je suis animateur de la CGT Métallurgie sur le département.
Merci. À côté de toi, nous avons Sophie.
Oui, bonjour.
Est-ce que tu peux te présenter ?
Alors, bonjour, Sophie Tardieu, je suis cheminote et je suis la secrétaire générale du syndicat CGT des cheminots de Bordeaux-Gare.
Merci. Et nous avons en face de toi Gérald.
Bonjour, Gérald Chalutot, j'appartiens comme Guillaume au syndicat CGT Striker.
Merci. Donc vous êtes venu ce matin pour nous parler d'un événement important, me semble-t-il. La manifestation que vous avez co-construite le 1er octobre, donc c'est déjà demain, moi je n'avais pas réalisé. Nous avons rendez-vous demain, place de la République, à
11h.
11h30. Très bien. Donc pourquoi relancer donc, une manifestation intersyndicale, si j'ai bien compris ? Donc demain, sur quel fondement ? Je suppose que la question de la politique actuelle, de ce qui se passe au niveau politique et gouvernemental, entre autres, vous a un petit peu titillé. Et la situation de la France qui n'est pas brillante, avec des souffrances multiples et diverses, notamment par rapport au niveau de vie, par rapport aux discriminations qui sont toujours très présentes, notamment de la part du gouvernement et de Macron, cette souffrance générale. Donc voilà, je suppose que c'est un peu ça qui vous a motivé à poser une manif générale.
Bah c'est tout à fait ça, hein, la politique actuelle avec ce qui se passe depuis les dernières législatives. Ça touche un peu tout le monde, surtout vis-à-vis de la CGT. Donc... Après, il ne faut pas oublier nos revendications de base, elles sont toujours là. Il y a l'abrogation de la réforme des retraites, on est toujours dessus, hein. Ça reste en travers de notre gorge, on va dire. Après, il faut passer sur l'urgence des salaires aussi, surtout les bas salaires, le SMIC, l'augmentation du SMIC. Il y a la santé, la sécurité sur le travail. Et l'investissement qui manque dans nos services publics pour avoir un service public réactif et fonctionnel de toutes parts. Et puis l'un des derniers, ça va être la réindustrialisation du pays. C'est un défi quand même qui est de forte hauteur, en sachant qu'il y a beaucoup plus d'usines qui ferment en ce début d'année que qui ouvrent.
D'accord. Donc avec la problématique en toile de fond du chômage aussi, je pense qu'on peut le rajouter. Et moi je rajouterai aussi la problématique des minima sociaux. Voilà, parce que là c'est vraiment un vrai désastre aussi. Les gens qui sont minima sociaux, ils vivent vraiment dans la misère. Et en plus ils subissent des contrôles de la part des organismes qui sont censés les accompagner, voire des sanctions très très graves. Voilà. Il y a toujours cette problématique en toile de fond qui à mon avis est liée au travail. Parce que si... les conditions de travail et de salaire sont désastreuses. C'est aussi parce que derrière, il y a des gens qui sont maintenus dans la pauvreté par le chômage, je pense au RSA, les gens qui sont en ASS, qui sont au chômage, et que du coup, ça fait pression aussi sur le salariat. Je pense que c'est aussi une question qu'il faudrait qu'on aborde un jour dans les luttes, parce qu'elle n'est pas tellement abordée.
Les travailleurs en temps partiel aussi. Les
travailleurs en temps partiel, voilà, également, qui sont des travailleurs précaires et qui subissent la précarité. Et du coup... Donc on parlait aussi des services publics, alors je pense à Sophie qui fait partie des cheminots. On a de grosses inquiétudes sur les services publics, alors l'hôpital, mais aussi je suppose qu'au niveau de la SNCF, c'est pas très brillant non plus. Est-ce que tu peux nous évoquer les problématiques que tu as identifiées ?
Ben, évidemment que la question du service public est prégnante, donc plus largement au niveau de la santé, de l'éducation et de ce qui nous concerne, nous, les cheminots. Effectivement, on a un certain nombre de revendications à la CGT que l'on porte depuis de nombreuses années et qui font écho également aux revendications portées plus largement sur la journée de mobilisation de demain. Avant de faire le focus un petit peu sur les cheminots, demain, ce qui est important aussi de souligner, c'est que ce n'est pas, non, pas qu'une mobilisation de rentrée sociale. Ce n'est pas que ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des exigences sociales. Il faut qu'elles soient entendues. Effectivement, on a un déni de démocratie aujourd'hui dans notre pays. On a un mépris total du gouvernement qui n'écoute pas, qui n'a pas entendu la voix des urnes, qui n'a pas entendu le salariat, les privés d'emploi et tout ce qui alimente notre pays, parce qu'on rappelle aussi que c'est les salariés hein, qui créent la richesse dans le pays, il ne faut pas l'oublier. Voilà, donc nous on est dans cette dynamique là pour demain, de ne pas faire de ce premier octobre qu'une rentrée sociale, de vraiment poser nos revendications, poser sur la table à ce gouvernement qui sûrement n'entendra pas, mais il faut qu'il entende à un moment qu'il y a une colère sociale aujourd'hui. On a eu hein, avec la réforme des retraites, vu comment ça s'est passé, l'imposition en force de cette réforme des retraites. Aujourd'hui, elle ne correspond pas aux citoyens, elle ne correspond à personne. Elle a été, ça a été dit, redit et redit. Et nous, voilà, sur le fond plus large, l'abrogation de la retraite, de la réforme des retraites dite Macron. Voilà, on n'en veut pas et on veut un nouveau programme et projet qui répond à nos exigences, à savoir une retraite à 60 ans pour tous, l'augmentation des salaires évidemment, pour vivre dignement de nos salaires et in fine pour qu'on ait une pension correcte arrivée à la retraite. Et nous, plus si on fait le focus sur le service public, effectivement, nous, on a plusieurs sujets qui nous traversent à la SNCF, notamment les ouvertures à la concurrence qui vont arriver très prochainement sur TER, sur les lignes régionales. Et nous, la revendication première, c'est que ce soit le transporteur historique qu'est la SNCF qui se positionne. Nous demandons à la région qu'elle positionne le transporteur historique. Aujourd'hui, c'est des filiales sûrement qui vont être proposées ou du privé. Nous, on demande que ce soit la SNCF. Pourquoi ? Parce que la SNCF, c'est faire du train. Voilà, on sait faire du train depuis X temps, que la mise en filiale ou la privatisation des lignes ne répondra pas aux besoins des usagers, parce que c'est quand même une chose importante à la CGT, de répondre aux besoins des usagers en termes économiques, en termes sociaux, en termes écologiques. Et dans le même aspect, on a aussi le projet de discontinuité. Alors c'est un mot peut-être qui ne touche pas tout le monde, mais voilà, c'est l'arrêt du fret SNCF historique comme on le connaît, pareil, pour le filialiser. Et ça, c'est un danger, effectivement, en termes économiques. Aujourd'hui, on a besoin du train de marchandises et que ce soit la SNCF qui continue le marché. Pour rappel, un train, c'est 55 camions. Voilà. Donc, c'est un peu les sujets qui nous traversent actuellement, voilà, où les cheminots prennent part à la bataille quotidienne sur ces sujets et pour qu'on vive dans de bonnes conditions de travail, pour qu'on ait des salaires décents et puis pour que la SNCF continue à être ce qu'elle est.
Effectivement, on constate qu'il y a eu une attaque, une destruction sur la SNCF et qui n'est pas nouvelle, qui date d'il y a au moins 20 ans déjà. Je parlais justement il y a deux jours avec quelqu'un qui me disait « Moi j'habite dans un petit village, une petite ville, hein, en Gironde, il n'y a plus de train, il n'y a plus de gare, parce que les petites gares ont été massivement fermées. Donc ça, c'est pas possible qu'on laisse faire ce genre de choses. Je suppose que ça fait partie aussi de vos luttes, mais ça va être compliqué, parce que déjà, y a les luttes actuelles, et puis alors, celles qui sont déjà un petit peu enclenchées, ça fait beaucoup de lutter en même temps sur tous les aspects. Et on a un gros souci quand même dans le sud-ouest. On a la LGV aussi, qui est un projet honteux. Hein, je pense que vous connaissez très bien du coup. Un projet en fait qui consiste à faire une ligne pour faire gagner 20 minutes aux Parisiens, je crois, en gros. En gros, hein, voilà, vaguement, pour qu'il y ait des trains qui arrivent en 2 heures et qui roulent très 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 vite. Et ça consiste à faire, me semble-t-il, hein, tu me corriges si je dis une bêtise, à faire des lignes parallèles, uniquement pour ces trains-là. et du coup continuent à délaisser les lignes habituelles, les petites lignes comme ils disent hein, dans le jargon, et du coup mettre tout l'argent public à venir sur ces grosses lignes qui vont faire gagner 20 minutes aux Parisiens pour faire Bordeaux-Paris, je sais pas quoi. Il me semble qu'il y a un problème là-dessus. Je sais pas si exactement ce que j'ai bien résumé ou pas.
Bah, la problématique, effectivement, c'est que ces petites lignes qui sont mises maintenant à la main du conseil régional, en fait, et c'est eux, l'organisateur, qui décide de ce qu'ils font de ces lignes-là. La problématique, c'est qu'effectivement, je rejoins, il y a des lignes qui sont totalement isolées et qui sont totalement perdues, et effectivement, ça ne répond plus aux besoins des usagers. Nous, on a une bataille continuelle sur certaines réouvertures de lignes, à savoir, par exemple, la Blaye-Saint-Marien, qui serait vraiment une réponse aux besoins, clairement, puisque quand on regarde la 10 le matin, quand on part travailler le matin avec la 10 complètement bouchée, ce train répondrait très clairement aux besoins des usagers. Donc oui, après, c'est des combats chroniques, ça. Ça, c'est du combat chronique, effectivement. Et aujourd'hui, ce qu'on peut dire également, c'est qu'on a quand même un peu l'appui de l'opinion publique, même beaucoup l'appui de l'opinion publique, à savoir qu'il y a des collectifs qui se sont montés, y compris avec des assos d'usagers, la CGT, des partis politiques. Et tout ça travaille conjointement pour effectivement gagner un petit peu cette bataille sur les lignes TER. Mais c'est une bataille de longue haleine. Il y a eu des mobilisations pendant X années et on continuera à batailler sur ça parce que vraiment, ce qu'il faut dire aux citoyens, c'est que la bataille du rail est la bataille de tous, en fait. Même écologiquement, aujourd'hui, on a besoin du train. Comme aujourd'hui, on a besoin vitalement d'avoir des hôpitaux, comme on a besoin d'avoir des écoles. La réponse au service public doit être vraiment une exigence à porter, comme la réindustrialisation du pays. C'est quand même des points forts pour notre système, en fait, pour notre système, pour les salariés.
Et on peut, moi, je relèverai quand même qu'il y a une nécessité, clairement, que l'on reste sur le transport par le train, parce qu'on a un problème écologique très fort, quand même, qui est révélé depuis 20 ans. Arrêter des trains pour mettre des camions à la place, ça n'a pas de sens.
Et non. Et la réponse aujourd'hui qui est faite, c'est que ces petites lignes qui sont abandonnées, la réponse est que c'est pas rentable. Mais jamais le service public ne doit être rentable.
Tout à fait.
Jamais. Voilà. Jamais. C'est une réponse aux besoins. Donc aujourd'hui, la réponse qui est donnée, c'est bon, ben c'est pas rentable. Mais ce n'est pas une réponse à apporter aux citoyens.
C'est voilà, et surtout pas aux citoyens également, puisqu'il y a des gens du coup qui se retrouvent en situation d'isolement, comme la personne que j'ai rencontrée là, qui sont sur des petits villages où il n'y a plus de gare. Voilà, enfin des petits villages, je me dis, il fait 1500 habitants quand même. Hein.
Il
y a
plus
village. De voilà, il y a voilà, c'est un village, un gros village qui auparavant, il y a 15 ans, avait une gare et la gare était fermée. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais les personnes qui n'ont pas les moyens, notamment les personnes précaires, comme je le disais tout à l'heure, d'avoir un véhicule, elles sont isolées, elles peuvent plus sortir de chez elles, ou alors avec les trams, les citrams, les anciens citrams là, les bus qui font le département, qui s'occupent du département. Mais elle me disait par exemple, moi, il faut que je m'en, on était sur une rencontre là associative, elle me dit, moi, il faut que je parte à 17h30 parce que j'ai le dernier bus, il est à 18h. Et si je le rate, je rentre pas chez moi. Enfin voilà, c'est quand même un déni de service public qui est très grave et qui met beaucoup de gens en difficulté, notamment les populations pauvres et précaires. Donc c'est là où il faut qu'on se batte, moi je lance un appel, hein, du coup, il faut qu'on se batte pour que les gares reviennent, soient de nouveau desservies, donc on remette en... Elles sont là les gares, hein, les murs sont là, donc il n'y a pas de raison. On peut les faire repartir ces gares et on remet des lignes de train et qu'on continue, d'ailleurs on continue, on est toujours là, on se bat contre cette LGV qui a un non-sens, qui va coûter des milliards d'euros pour rien, qui va détruire des zones humides et des forêts, sur des kilomètres, des centaines de kilomètres. C'est vraiment une honte, ce projet de LGV. Il y a de grosses luttes qui se font en Gironde et ailleurs. On va continuer, on ne lâchera pas. Et ils ne passeront pas, ils ne détruiront pas tous ces sites.
Oui, y compris, nous, on appelle les forces politiques à privilégier ces trains de ligne et à se mettre dans le combat avec nous au niveau du CRVF, du comité de vigilance ferroviaire. On a un exemple, hein, le maire de Saint-Pierre-d'Aurillac, hein, à force de se battre avec nous, avec les cheminots, et de se battre, et bien, il a réussi à faire arrêter les trains dans sa gare. Donc c'est possible, tout est possible. Il faut juste qu'on soit unis, forts dans la lutte et dans la bataille, Voilà, sans préciser que parti politique, j'entends bien parti politique qui porte nos revendications
de gauche,
sans les citer, sans citer, parce qu'on ne va pas perdre de temps à citer d'autres personnes, on n'a pas le temps pour ça. Mais vraiment, ceux qui portent notre projet, et y compris c'est ce qui a fait que la CGT s'est positionnée aussi au niveau du NFP, c'est que le NFP portait un certain nombre de revendications portées par la CGT. Mais tout est possible. Il y a certaines régions, l'Occitanie, a re-signé pour 10 ans avec SNCF. Donc c'est possible aujourd'hui.
Voilà, il faut continuer à se battre. Je crois qu'on n'a pas le choix et on y arrive quand on se bat ensemble. Donc comment on fait en fait les citoyens là qui sont, hein, ils sont isolés du fait de cette maltraitance là sur la SNCF. Comment ils peuvent faire pour raccrocher sur un groupe, un collectif? Alors il y a le collectif Stop LGV, mais il n'est pas forcément sur cette thématique là. Mais il y a des liens sûrement qui sont faits dans ce collectif avec des gens, des cheminots qui peuvent peut-être être dans des luttes et que les gens puissent vous rejoindre parce que c'est comme ça qu'on se renforce.
Tout à fait, nous on a le comité de vigilance ferroviaire, régional ferroviaire qui s'est monté, le CRVF, donc comme je dis avec des partis politiques de gauche, avec la CGT et avec des assos d'usagers, donc pour ne citer qu'elle, il y a Train d'Enfer. Voilà, qui est déployé sur plusieurs lignes, celle d'Arcachon, il y a Langon, il y a celle de Saint-Marien. Et effectivement, on invite les usagers à ne pas rester seuls un petit peu et ça fait ouvrir aussi les consciences et à montrer que les cheminots, on est également dans le même combat qu'eux et pour eux finalement. Que tout ce qu'on revendique est aussi pour la collectivité. Donc on les invite à rejoindre, il y a des groupes sur les réseaux sociaux et rejoindre ce CRVF qui a fait quand même quelques miracles, parce que ça a aussi un peu fait reculer à la Rousset aussi sur certaines positions. On a un petit peu gagné du temps, donc on n'a pas totalement réussi aujourd'hui, mais on peut y arriver à faire reculer ça, et par les usagers, par les forces politiques qui sont avec nous, par la CGT, on peut réussir à gagner que l'entreprise unique SNCF, qui n'est plus unique, mais c'est ce qu'on revendique, une entreprise unique et intégrée, que l'entreprise historique garde le marché sur ses petites lignes.
Et donc, pour vous retrouver, on tape CRVF sur quels réseaux sociaux?
Oui, vous avez, là, vous pouvez taper sur CRVF, et notamment, vous avez un site L'Appel du Rail, c'est ce qui a été monté, L'Appel du Rail, où il y a eu des livrets blancs qui ont été faits également avec les propositions, notamment du CRVF, en lien avec les propositions CGT, qui est également L'Appel du Rail, parce que oui, on parle de la CGT parce qu'on est là, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, mais c'est une initiative en intersyndicale. Voilà. Et avec les quatre syndicats historiques de la SNCF.
Mais pas que, hein, les citoyens, vous pouvez venir.
Mais les citoyens, donc vous avez le site de L'Appel du Rail. Si vous tapez sur Google L'Appel du Rail, vous avez toutes les infos pour nous retrouver, pour rentrer dans ce combat
super.
Ô combien important.
Voilà, donc il faut se regrouper, n'hésitez pas, et restez pas tout seul avec votre problématique, parce que ça, c'est pas top. Du coup, il faut être avec d'autres personnes qui luttent, et ça fait du bien, et on y arrive. On arrive à résister, contrairement à ce qu'essaient de nous faire croire les dominants néolibéraux, dont Macron et les autres, là, et sa bande. Ils nous font croire qu'il faut, là, il n'y a plus rien à faire, que lui, il continuera à tout écraser, mais c'est faux. On le sait que c'est faux. La preuve, en législative, on a gagné, le Front Populaire a gagné, même si l'écrasement de démocratie a continué, certes, mais on a gagné. Moi, je reste sur cette victoire. Et je vous propose d'écouter Riposte Populaire, Porcherie.